Culture sans frontières.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la 10e édition du Festival du film d'animation Anifest à Teplice, était organisé un forum franco-tchèque dont le but est de rapprocher et d'échanger sur deux grandes traditions de l'animation. Parmi les invités, Olivier Cotte, historien de l'animation et professeur à l'École des Gobelins à Paris, qu'il nous présente.
L'École des Gobelins est la première école d'animation qui a été ouverte en France au tout début des années 70, donc c'est la plus ancienne, et c'est une école qui a la particularité d'être assez portée sur l'animation elle-même, l'animation de personnages. Ce n'est pas une école d'expression artistique, on n'est pas là pour réaliser des films en solo, pour s'exprimer comme on le fait par exemple avec la peinture ou les arts plastiques traditionnels. On fait des films, mais dans le cadre de travaux de groupe. Ces films peuvent être projetés lors notamment des séances de courts-métrages et de longs-métrages en compétition du Festival d'Annecy. Ce sont des films de commande. Et puis en troisième année, il y a la réalisation, toujours collective, d'un film de fin d'études, qui est un court-métrage d'une durée comprise entre 3 et 6 minutes.
Alors c'est une école qui est spécifique également parce que vous travaillez à la manière ancienne. Alors certes, il y a évidemment l'utilisation du numérique, mais c'est plutôt dans une deuxième phase, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. La première année, notamment, les étudiants touchent un peu au numérique, notamment avec Flash et une petite initiation sur After Effects, mais le gros du travail est de toute façon réalisé en animation traditionnelle sur papier. Je précise d'ailleurs qu'on ne fait pas d'animation en volume au Gobelin, tout simplement parce que on peut pas tout faire. Si on veut vraiment bien enseigner et du coup pour que les étudiants apprennent bien aussi, il vaut mieux être quand même assez spécialisé. Donc nous on est plutôt sur l'animation en 2D, donc dessinée. Pour ça, du coup, ça signifie qu'il faut quand même bien savoir dessiner pour rentrer à l'école.
Après, ça veut dire qu'un étudiant arrive en général au Gobelin après avoir déjà fait une école ?
Très souvent. Très, très souvent, ils font ce qu'on appelle une remise à niveau, c'est-à-dire qu'après le baccalauréat, la plupart d'entre eux suivent des cours dans d'autres écoles de manière à être reçus à l'école de Gobelin, parce que le concours est quand même assez sévère. Il y a entre 500 et 700 candidats pour 25 élus. Après, par contre, pour revenir aux techniques, en deuxième année, on va beaucoup plus vers le numérique, avec notamment l'apprentissage After Effects, qui sera très utilisé pour la fabrication des films pour Annecy. Et puis, l'année se termine sur une première partie de l'apprentissage de Maya, qui est terminée en début de troisième année, avant la réalisation du film de fin d'études.
Quand un étudiant sort de l'École des Gobelins, quelle porte s'ouvre à lui ?
Alors, généralement, un étudiant qui sort des Gobelins trouve assez facilement un travail en tant qu'animateur, parce que c'est vraiment une école, encore une fois, qui est vraiment spécialisée sur l'animation de personnages. Et ça, quelle que soit la technique, de toute façon, que l'on fasse de la marionnette, du dessin animé sur papier ou sur flash ou en 3D. De toute façon, les règles de l'animation, les règles du timing, de l'acting sont les mêmes. Insuffler une vie propre à un personnage est totalement indépendant de la technique utilisée. Donc cet apprentissage qu'ils ont, ils peuvent le mettre de toute façon en service, quel que soit le type de production. On ne forme pas spécifiquement de réalisateur. Par contre, il y a un étudiant peut très bien sortir et se dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le storyboard. » Il va devenir storyboarder ou c'est le layout. Et il va devenir layoutman. Quelques-uns changent complètement d'orientation et se retrouvent à faire plutôt de la bande dessinée ou de l'illustration, sachant que de toute façon, dans ces conditions, les Gobelins auront quand même amené la capacité à mettre en image des idées et des personnages de manière graphique et avec une certaine puissance dramatique.
Vous qui êtes historien justement de l'animation, de l'histoire de l'animation, vous pouvez un petit peu comparer évidemment les différents styles, alors les différentes écoles, j'allais dire, nationales. Vous connaissez évidemment l'animation tchèque. Est-ce que vous pourriez un petit peu la qualifier et puis peut-être la comparer avec la tradition française par exemple ?
Je trouve qu'il y a plutôt pas mal de points communs entre l'animation tchèque et l'animation française, dans le sens où je crois qu'il y a une culture commune. On pourrait dire peut-être aussi la même chose, d'une certaine façon, de la France et de la Pologne. Il y a quelque chose d'assez commun entre les deux. Maintenant, par contre, il y a quand même des spécificités. C'est vrai que l'animation tchèque est très très portée sur le volume et sur les marionnettes, parce que la marionnette est un art vraiment typiquement tchèque. Il y a eu des écrivains pendant le 19e siècle ou pendant le 20e siècle qui ont vraiment écrit des pièces de théâtre pour la marionnette. Il y avait des théâtres à Prague pour ça. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en France. Et évidemment, du coup, l'animation elle-même s'est portée vers la marionnette, ce qui est très bien. Et la France, là-dessus, est un peu, j'allais dire, en retard, parce qu'il y a maintenant, depuis une quinzaine d'années, on fait beaucoup plus de films en volume. Alors, je crois que c'est un phénomène un peu général dans le monde entier, hein. Même depuis Hardman ou certains longs métrages américains, comme, Nightmare Before Christmas, James and the Giant Peach. On revient un peu au volume, mais c'est quand même nouveau pour le monde occidental, alors que par contre, en Tchécoslovaquie, c'est vraiment une tradition. Ça constitue une différence. Pour le reste, par contre, en termes d'univers et de scénario, on peut trouver beaucoup de points communs. Par exemple, le surréalisme est né à Paris, et il y a un surréalisme tchèque qui est très très important.
Et qui est toujours vivant d'ailleurs à l'heure actuelle.
Et qui est toujours vivant, notamment avec des réalisateurs qui commencent à avoir un certain âge, comme Jan Schockmeyer. Mais il y en a d'autres, il y a une relève. Et là-dessus, du coup, il y a je crois que c'est vraiment une identité européenne qui est commune aux deux pays. Il y a une façon de voir aussi une certaine absurdité de l'existence qui existe dans les deux pays. C'est pas pour rien, par exemple, qu'en France, il y a un certain nombre d'artistes étrangers qui ont été accueillis, comme Ionesco, par exemple, qui est roumain et qui est l'inventeur du théâtre de l'absurde. Cette mise en scène de l'absurdité de l'existence, on la trouve aussi, je trouve. Mais c'est un regard extérieur, je peux me tromper, mais on la trouve quand même beaucoup dans la culture tchèque.
C'était donc Olivier Cotte, historien de l'animation et professeur à l'école des Gobelins à Paris. Et puis, 7 producteurs français de courts-métrages et de films d'animation ont été également invités à Tapletsé pour échanger avec leurs homologues d'Europe centrale ainsi qu'avec des auteurs. Ils nous en disent plus sur le sujet, on les écoute.
Donc moi, c'est donc Ron Diens. J'ai créé Sacrum de production en 1999. Et depuis, on a produit une petite cinquantaine de courts-métrages sélectionnés dans plus de 900 festivals. On fait approximativement 50% d'animation et 50% de prise de vue réelle et de documentaire. Voilà. Et on est en train de passer doucement au long métrage et à la collection d'animation.
Moi, je m'appelle Christian Foll, je suis le fondateur avec un groupe d'amis de la société Lardux Film, qui existe depuis 20 ans. Et on est connu pour faire tout sauf de la fiction, avec une grande passion pour l'animation.
Alors ici vous êtes dans le cadre du festival, invité dans le cadre du festival Anifest qui en est à sa 10e édition. Quels vont être un petit peu vos rôles ici respectivement? Alors je sais que pour Christian on va donner une conférence. Vous allez également participer à un forum, Christian?
Ouais, en fait le Visegrad Exchange Forum, c'est une session de pitch de projet. C'est une forme qui existe depuis une bonne dizaine d'années dans les festivals internationaux et qui revient en amont des films pour aider à monter des projets. Et donc, ils ont eu l'excellente idée de tenter le coup ici. C'est une forme qu'on trouve dans des grands festivals pour le documentaire comme l'IDFA depuis très peu de temps à Clermont, depuis 2-3 ans à Clermont. Pitcher un projet, c'est le présenter, apprendre les défauts et les qualités, les points forts et les points faibles de son projet. Mais immédiatement trouver en face de soi, et c'est la qualité d'un forum que de mettre en face des porteurs de projets, des acheteurs de télé, des producteurs, des financiers. La difficulté de monter un film, c'est quoi? C'est que tu dois voir des gens, mais tu les as jamais tous sous la main. Tu t'emmerdes à voir chaque personne, et notamment en France, le moindre sous-fifre d'une sous-chaîne est le premier ministre, injoignable, qui rappelle jamais, qui donne jamais de réponse. Donc choper ces gens, c'est très compliqué. Et le rôle des festivals de ce point de vue-là est formidable. Ils te les mettent devant toi. Et du coup, leur rôle au télé, et dans notre cas aux producteurs, eh ben, c'est d'être attentif et de choisir ce qui nous plaît dans un panel de projets.
Dans ce cadre-là, alors les projets qui vont être présentés, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un débouché futur, éventuellement être monté, une coproduction?
Pourquoi pas, tout est possible en fait. Un projet dépend d'énormément de facteurs, notamment dans le désordre de la personnalité de l'auteur, de la qualité du producteur, qui deviendrait coproducteur à ce moment-là, enfin où on deviendrait coproducteur, du style graphique, du désir de travail, de l'originalité, voilà, c'est tout ça. Et puis de la présentation, être à l'aise, croire en son projet, c'est une alchimie. Et en fait, ce qui est intéressant justement dans ces métiers artistiques, c'est qu'on est régulièrement surpris par ce qu'on peut voir, entendre.
Juste pour terminer sur le festival ici, dans ce cadre, vous avez visité à Prague différents studios d'animation. Quelles sont un peu vos impressions sur ces rencontres?
Eh ben, on voit bien que la Tchéquie a une longue histoire de l'animation, une spécialité dans la poupette animation, nous, vu de loin, on pouvait de certaine manière critiquer parce que c'est un old style. Mais on sent aussi une volonté de le renouveler, de le faire évoluer. La stop motion et la poupette animation avaient perdu son attrait jusqu'à ce que certains prouvent, Tim Burton et Aardman principalement, que c'était un genre extrêmement aimé du public. Et donc on est dans une phase ascendante et des gens, et l'histoire de la République tchèque et de son secteur de l'animation devrait, comment dire, déboucher sur quelque chose qui a un très fort potentiel. Mais il faut se débarrasser d'un certain style de narration, de conte traditionnel, disons, qui a eu ses lettres de noblesse mais qui ne fonctionne pas aujourd'hui ou qui fonctionne plus. Je sais pas, j'en parle comme si je savais, je ne sais pas. Mais il y a un potentiel très fort. Voilà. On a vu des grands professionnels, on a vu des talents, on a vu des gens justement qui réfléchissent à le faire évoluer, ça.
Dans l'émission d'aujourd'hui, vous avez pu entendre l'historien de l'animation Olivier Cotte et les producteurs Christian Pfoll et Ron Diens. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet sur Lidice. Lidice, c'est ce village qui a été rasé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en Tchécoslovaquie et qui fait l'objet d'une adaptation cinématographique. À bientôt, bon vent, ahoy.